Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Washington. Déjà un mois pour Donald Trump, sur fond toujours d'hésitation et d'amateurisme peut-être pour le président américain. Bruxelles, où le général Mattis est venu rassurer ses alliés européens de l'OTAN. Pyongyang avec ce tir de missile pour mettre en garde Donald Trump. Et au fait, tiens, qui a tué le demi-frère de Kim Jong-un? Et puis Ashgabat, capitale du Turkménistan, considérée un peu comme la Corée du Nord de l'Asie centrale, avec la réélection du président Berdimuhamedov Mukhamedov à 98% des voix. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Fabrice.
Faites l'Europe, pas la guerre. C'est toujours le mot d'ordre ce week-end.
Tout à fait, encore plus que la semaine dernière.
Bon, on va voir ça dans un instant. Jean-Dominique Merchet, bonjour.
Bonjour.
Jean-Dominique Merchet qui est journaliste dans le quotidien L'Opinion, spécialiste des questions de défense et animateur d'ailleurs de son blog Secret Défense. Alors, oui, ça fait un mois maintenant que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et tous les week-ends, on égrène eh bien, la liste des ratés, des coups de gueule, son impréparation aussi. Tenez encore bien, ce qui s'est passé cette semaine, sur lesquels on va revenir, ces faits sur lesquels on va revenir dans un instant. Première démission à la Maison-Blanche, celle du général Flynn, hein, conseiller à la sécurité intérieure, pour avoir menti sur ses contacts avec la Russie. Démission du secrétaire au travail pour une vieille histoire de violence conjugale. Il a été remplacé assez rapidement par un hispanique. Et puis des hésitations, toujours sur la politique étrangère. Exemple, le Proche-Orient, tiens, la solution entre Israéliens et les Palestiniens passe-t-elle par un ou deux États? On ne sait plus très très bien. Non, franchement, ne croyez pas qu'il y ait de notre part de l'acharnement, hein, même si pour l'intéressé, le coupable, il est tout désigné.
La presse est devenue si malhonnête que si nous n'en parlons pas, cela dessert énormément le peuple américain. Le niveau de malhonnêteté des médias aujourd'hui est hors de contrôle. Certains médias sont fantastiques, mais la plupart non. Ils mentent, ils travestissent la réalité. Mais on ne se laissera pas faire. Je suis ici une nouvelle fois pour faire passer mon message directement au peuple américain.
Voilà, Donald Trump très en colère hein, dans sa conférence de presse, c'était jeudi soir, hein, la presse, mais aussi la justice qu'il a tensé, accusé, vous savez, dans l'affaire des décrets anti-musulmans qui ont été retoqués. Tiens, quel bilan on peut faire l'un et l'autre de Donald Trump depuis un mois, depuis le 20 janvier Jean-Luc Sauron.
Le bilan, je trouve, est assez angoissant, parce que le président Mao disait que le pouvoir est au bout du fusil. Visiblement que Donald Trump, le pouvoir est au bout du stylo. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, une théâtralisation du pouvoir avec ces signatures, qui sont d'ailleurs assez moquées sur les réseaux sociaux, mais...
Au-delà de cette théâtralisation,
le fond, c'est quand même l'homme. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la communication. J'ai l'impression quand même de je crois qu'on peut tirer au bout d'un mois, c'est qu'il n'a pas progressé sur le fond. On en parlait tout à l'heure sur Israël, c'est pas ses choix qui sont importants, c'est ses non-choix.
Bien sûr.
Et sur l'équipe, vous disiez tout à l'heure que le secrétaire d'État a prévu pour l'éducation a démissionné. Oui, mais enfin, il est presque sûr qu'il ne serait pas accepté par le Sénat. Il y a quand même que pour la première fois,
le nouveau va l'être. Le nouveau, c'est un doyen de la faculté de Miami, hispanique, très reconnu justement. Il a choisi quelqu'un pour le remplacer très sérieux, établi. Peut-être, justement, pour la première fois, il choisit un vrai professionnel.
Oui, mais là, il fallait nous dire que le premier mandat de Donald Trump était un mandat d'essai, dans lequel il va tester ses agents, et que le deuxième mandat sera valable. C'est décevant, c'est très très décevant.
Et vous, Jean-Dominique Merchet?
On assiste quand même à quelque chose d'extravagant. On ne s'attendait pas à ce que ce soit génial, formidable, mais autant d'à peu près... d'amateurisme, c'était quand même imprévisible que ce soit à ce point-là. Alors, on conjugue à la fois...
Comment ça s'explique, cet amateurisme?
Parce que ce monsieur Trump, qui a fait une belle carrière dans les affaires et dans la télé-réalité, n'a strictement aucune expérience politique. Ouais. Aucune expérience politique. Il a su gagner les élections, donc c'est pas mal. Mais en revanche, il ne sait pas comment fonctionnent les institutions, comment fonctionne le monde réel extérieur aux États-Unis, dans lequel il se trouve tout d'un coup plongé par un hasard de l'histoire. Par un hasard de l'histoire, parce que il a quand même fait moins de voix qu'Hillary Clinton. Alors, évidemment, c'est, les voix étaient réparties de telle façon entre les différents États.
Les grands électeurs sont quand même majoritaires.
Qu'il a gagné, que personne ne remet en cause son élection. Mais c'est un hasard de l'histoire qui le porte là. Et c'est ce qu'on voit depuis un mois, c'est catastrophique. C'est pas possible que la première puissance du monde soit dirigée à la fois par des amateurs, parce qu'on parle bien d'amateurs, son conseiller national à la sécurité nationale s'est comporté comme un sous-lieutenant débutant, et en même temps des idéologues assez radicaux. Ouais. Donc le mélange des deux, il est explosif.
À la Maison Blanche.
Et on est dans un monde... Et ça rend la situation internationale très dangereuse.
Sondage du Pew Research Center, 39% des Américains approuvent son action à la tête de l'État, 56% désapprouvent. C'est la première fois depuis de bien longtemps, de bien nombreux présidents, qu'on a une cote de popularité aussi basse, un mois donc après l'arrivée à la Maison Blanche. Alors justement, vous le disiez, Jean-Dominique Merchet, la démission du conseiller à la sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'il reprochait à Michael Flynn? Ce sont des contacts avec la Russie entre l'élection de Donald Trump début novembre et son intronisation le 20 janvier. Alors, je ne sais pas d'où viennent les fuites, Jean-Dominique. En tout cas, c'était quoi la teneur de ces relations avec Moscou au moment où Barack Obama expulsait des espions russes? C'était fin décembre.
Alors, ce général Flynn, qui était conseiller à la sécurité nationale, pardonnez-moi de vous corriger.
Qu'est-ce
par
que
intérieur,
j'ai dit
par
sécurité nationale, bien entendu, bien sûr, bien sûr.
Conseiller sécurité nationale, ce monsieur est un général. Il a fait toute sa carrière dans le renseignement. Il a même été à la tête du renseignement militaire américain, dont il avait été remercié, viré par l'équipe précédente d'Obama en disant vraiment ce type n'est pas sérieux et on ne peut pas lui confier une telle responsabilité. Il se retrouve pour des raisons idéologiques à soutenir le candidat Trump, et c'est un type d'une conviction très proche de l'extrême. Chez nous, il serait d'extrême droite, pour dire les choses. Voilà. Et il se retrouve nommé à ce poste essentiel de conseiller à la sécurité nationale, simplement pour vous dire, Kissinger a eu ce poste.
Toujours.
Voilà. C'est pas, on n'est pas dans 70. Des postes de débutants et d'amateurs. Et ce gars qui passe toute sa carrière dans le renseignement militaire, il ne comprend pas qu'il y a un problème à appeler la Russie pour parler à un diplomate, pour lui dire on ne sait trop quoi, alors que les États-Unis sont en train d'expulser des espions soviétiques, des espions russes, et que pris la main dans le pot de confiture, la Russie ne conteste même pas les faits.
Bien sûr.
Il dit oui, bon, c'est pas bien, bon, bah, tant pis, voilà. Et il appelle. Il parle aux Russes et il dit même pas exactement ce qu'il en est à ses chefs, c'est-à-dire au vice-président, au président. Bref, on a affaire à un amateur total. Mais la question, c'est que cet amateur total, quelqu'un l'avait nommé. Et c'est Trump.
C'est Trump. Et la question, Jean-Luc Sauron, est-ce que Trump était au courant? Vous nous dites, Jean-Dominique Merchet, apparemment, il n'était pas au courant. Le vice-président a dit lui-même qu'il n'était pas au courant. Très bien, bon, pourquoi pas. Tout au long de la semaine, Trump n'a cessé de nier toute connexion avec la Russie. Il parle d'absurdité. Jean-Luc Sauron.
Oui, bien sûr, je pense que le président Trump était au courant. Et la preuve en est, c'est que dans cette séquence d'incidents, on s'aperçoit quand même que finalement, la retenue russe a peut-être été conditionnée par les discussions de Flynn avec les Russes.
Quand vous dites la retenue russe, c'est-à-dire de ne pas expulser
d'espions, d'agents, de diplomates
américains. Voilà.
Que Donald Trump a dit, ils sont beaucoup plus intelligents que Barack Obama, ils ne réagissent pas. Et je pense que ce qui est grave, c'est qu'en effet, je pense que c'est cohérent que Flynn ait dit aux Russes, écoutez, Donald Trump, ça va bouger. Ne bougez pas, ça va nous faciliter un rapprochement ultérieur. Le problème, c'est que, peut-être on verra tout à l'heure sur l'OTAN, c'est que je crois que l'équipe de Trump a beaucoup promis aux Russes qu'en effet, essayer de ne pas trop mettre le président Trump en difficulté et qu'ils peuvent avoir une déception sur les premières positions de l'équipe Trump. Et ça peut avoir engagé une réaction un peu brutale.
Ouais, Trump était-il au courant? Trump est-il fragilisé? Oui, il est fragilisé après cette affaire. Jean-Dominique Merchet.
Vous installez à la Maison Blanche, vous perdez votre conseiller à la sécurité nationale. C'est comme si, voilà, vous perdez un des éléments essentiels de votre
administration. D'autant plus qu'il y a des élus républicains au Congrès qui n'apprécient pas tellement qu'on fricote avec les Russes, clairement.
Alors, voilà. Par ailleurs, il y a à la fois cet amateurisme voilà, un manque de professionnalisme. Par ailleurs, il y a des choix de politique étrangère dont on peut discuter, qui sont tout à fait... faut-il relancer les relations avec la Russie ? C'est ce qu'Obama avait essayé de faire quand il avait été élu. Donc, c'est pas non plus une horreur absolue.
Bien entendu.
Mais on est dans un autre niveau. On peut faire des choses, mais il faut les faire avec professionnalisme.
Alors justement,
là, il n'y a pas de professionnalisme.
Soupçons de collusion ou pas avec Moscou, malgré tout, bien deux des ministres de Donald Trump, et non des moindres, sont venus rassurer les Européens. Il y a déjà Rex Tillerson, donc à la tête de la diplomatie, qui est venu au G20 à Bonn, ancienne capitale de la RFA. Ça fait très guerre froide, Jean-Luc. Premier entretien d'ailleurs avec Sergueï Lavrov, son homologue russe. Que dit Tillerson ? Les États-Unis envisageront de coopérer avec la Russie lorsque nous pourrons trouver des domaines de coopération qui serviront les intérêts du peuple américain. C'est rassurant ?
Non, c'est pas rassurant du tout. Parce que certes, Barack Obama avait une politique de rapprochement, de désescalade avec les Russes, mais c'était avant la crise ukrainienne. C'était avant le coup de poker du Donbass, et ainsi que la crise syrienne. Donc là, il faut en effet mettre cette déclaration qui finalement est assez prudente.
Début de clarification, disait Jean-Marc Ayrault après cette déclaration.
Bah, tant mieux, moi je suis très content s'il y a si on considère que le fait qu'il n'y ait pas de réaffirmation de la nécessité des sanctions clairement, parce que Jean-Marc Ayrault parle d'un début de le ministre des Affaires étrangères français, d'un début d'éclaircissement, mais de conversation bilatérale qu'il a eue avec le secrétaire d'État Tillerson. Mais publiquement, celui-ci n'a pas, dans ses conversations avec les Russes, ni dans les conversations avec ses alliés, eu de déclaration ferme sur le maintien des sanctions et le lien sanctions Ukraine. Et ça, c'est en effet Jean-Marc Ayrault qui dit il y a le lien demeure. Mais publiquement, il n'y a pas eu de réaffirmation de la pérennité des sanctions tant que les Russes maintiennent l'agitation sur la Crimée et le Donbass. Or, actuellement, il y a quand même pas mal de bruits de chars, de mouvements de troupes et d'augmentation des tensions.
Et je regardais dans Le Monde cette semaine aussi un papier très intéressant sur la remilitarisation de l'île de Gotland dans la Baltique, justement avec la Suède, qui se prépare au cas où la Suède qui ne fait pas partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, il y a un débat en Suède. Est-ce que oui ou non, la Suède doit faire partie de l'OTAN ? Oui, tiens, justement, l'OTAN, Jean-Dominique Merchet, vous qui animez le bloc Secret Défense, le général James Mattis, donc le patron du Pentagone, lui, il était à Bruxelles au siège de l'OTAN. Il a voulu se montrer rassurant, peut-être, lui aussi. Il dit que les conditions ne sont pas réunies pour une coopération militaire avec la Russie. C'est nouveau, ça.
Oui, en même temps, il enfonce une porte ouverte.
C'est mieux de le dire en ce moment dans le contexte.
Oui, mais une coopération militaire avec la Russie, c'est totalement inimaginable. Personne aujourd'hui n'imagine qu'on va faire une alliance militaire avec les Russes. La question de l'OTAN... Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a ce que disent les États-Unis depuis des années, des décennies. Ils disent les Européens ne payent pas assez, nous payons trop pour la défense européenne.
Que ce soit Barack Obama ou Donald Trump, ça ne change pas.
Voilà. Ça fait 30 ans que les Américains répètent la même
chose. Les 2% du PIB consacré à la défense, voilà ce que demandent les Américains.
Le contribuable américain paye la défense des Européens et ça ne peut pas durer aussi longtemps que les contributions. Voilà. C'est un discours. Et donc, comme Trump arrive et le dit avec force. Mais, au fond, il le fait. Il y a une autre question qui est celle de l'engagement américain à défendre les pays européens en cas d'agression russe. Ça, les États-Unis sont tenus par les textes.
Traité
de l'Atlantique Nord, 1949, son article 5,
qui dit un pays qui est agressé, qui est attaqué, tout le monde doit venir derrière.
Avec sans doute des arguties juridiques qui pourraient éventuellement permettre aux Américains de ne pas s'engager totalement. Mais
aujourd'hui, au moment où on se parle, Jean-Louis Merchet, on sait, on est sûr que les États-Unis interviendraient. Oui.
Oui.
D'accord.
Parce que,
donc c'est rassurant.
On l'espère, parce qu'on n'imagine pas que les États-Unis aujourd'hui se retire de l'OTAN. Parce que ça signifierait ça, en fait.
Ça signifierait que
les États-Unis se retireraient de l'OTAN. Pour l'instant, on n'est pas dans ce schéma. On voit bien que toutes les avancées, toutes les déclarations des Américains, de Tillerson, du vice-président, il y aura ce week-end à Munich une grande conférence sur la sécurité, James Mattis, enfin, toutes les déclarations vont dans ce sens de la réassurance en disant « oui, nous serons là ». Bon. Le moment de vérité, c'est le moment de la crise. C'est le moment où il se passerait quelque chose. Et là, voir comment les choses se passaient. Et ça, effectivement, on n'en sait rien.
Juste, j'ouvre une parenthèse à l'intérieur de ce dossier américain. La Russie, elle avait été accusée d'avoir manipulé le scrutin américain donc du mois de novembre par des cyberattaques. François Hollande, il a donné des consignes pour éviter de telles attaques en vue de notre scrutin, à nous, le 23 avril, justement. Il met en garde tout État qui interférerait dans le processus électoral. Des menaces sérieuses ou pas, Jean-Dominique Verchet, vous qui êtes spécialiste des questions de défense à l'opinion.
Oui, écoutez, c'est très difficile de se faire une opinion, pour le coup, une opinion définitive sur ces affaires. Parce que déjà, on mélange deux choses. On mélange ce qui relève de la propagande, de la propagande par des services liés à l'État russe, dire. Les chaînes de télévision, la chaîne de télévision Russia Today ou le site Sputnik, qui sont très proche du Kremlin, aucun doute, sont financés et qui balancent des infos extrêmement hostiles à l'Occident et à un certain nombre de candidats, dont en France, par exemple, Emmanuel Macron. Bon, voilà, ça c'est une réalité, mais ça c'est public, ça se fait sur la sphère publique, et au contraire, c'est fait pour que ce soit public, sur les réseaux sociaux, les gens. Autre chose, c'est de rentrer dans les ordinateurs des partis, comme ils l'ont sans doute
fait pour, avec le parti démocrate,
d'aller chercher des documents confidentiels, de rendre public des documents confidentiels, éventuellement de pirater les systèmes électoraux. Alors chez nous, on n'a pas le vote électronique.
Non, bien sûr.
Donc ça garantit.
Ça limite un peu quelque part.
Ce sont deux choses très différentes.
Voilà. Alors on parlait de l'amateurisme de Donald Trump. Sur la scène diplomatique aussi, on en avait déjà, l'avait déjà évoqué à propos de la Chine, avec un assouplissement des positions un peu cassantes du début de Trump. Le Proche-Orient, tiens, première rencontre cette semaine, c'était à Washington, Trump-Netanyahou, qui venait en quelque sorte tester sa marge de manœuvre. Hein, Netanyahou qui, depuis un mois, développe ses programmes de colonisation en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Alors, au fait, hein ? Ou deux États à terme entre les Palestiniens et les Israéliens. Deux États, c'était la position américaine née des accords de paix d'Oslo de 1993. On écoute Trump, on ne sait plus très bien.
Je regarde deux États et un État. Et si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec la solution qu'ils préfèrent. Les deux me conviennent.
Bon, alors les deux me conviennent. Quand on est président américain, quand on écoute un président américain, on ne s'attend pas à avoir davantage de précision, de clarté, Jean-Luc Sauron.
Moi, je crois que la clarté et la précision ne sont pas des qualités très trumpiennes, si je puis dire.
Sur Israël.
Sur Israël, je pense que il faut expliquer un peu à nos téléspectateurs que donc un État, ça veut dire un seul État dans lequel les deux populations sont assemblées avec la menace, entre guillemets, d'un dépassement démographique de la population palestinienne et donc à terme l'idée d'une... Alors comment faire fonctionner ce système d'un État unique avec deux populations, d'où un certain nombre de possibilités d'aménagement, d'apartheid, les mots sont un peu excessifs parce que chargés quand même d'un sens qui n'est pas celui d'Israël, hein, où je rappelle qu'il y a déjà une population arabe en Israël.
Qui dans le Nord, bien sûr, 20% de la population est une population arabe en Israël.
Y compris depuis récemment le droit de servir dans l'armée israélienne.
Oui, tout à fait. Et là, on ne parle pas de la Cisjordanie occupée ou de la bande de Gaza.
Il y a deux États, c'est-à-dire d'avoir un État israélien, un État palestinien, avec bien sûr l'inquiétude des Israéliens, qui est de dire un État palestinien dans le contexte actuel, c'est un État qui a une armée, et un État qui a une armée dans un pays qui, depuis la création d'Israël, demande la disparition d'Israël et de rejeter les Juifs à la mer. Je rappelle quand même nos téléspectateurs que Israël, dans son côté le plus mince entre sa frontière et la Méditerranée, c'est 15 kilomètres. Il faut quand même se rendre compte que c'est rien en termes de militaire. Dans un contexte où le Hezbollah est devenu quasiment une armée, le Hezbollah s'est entraîné en Syrie. En Syrie, ça a permis la montée en puissance du Hezbollah. Et le Hezbollah, qui est lié à l'Iran, et l'Iran qui a fait des menaces récentes sur Israël, Israël qui se sent menacé par la montée et l'accord quadripartite sur le nucléaire iranien. Je veux dire qu'à la limite, Obama était aussi responsable que Trump, juste avant de partir, en votant contre, en rompant sur une tradition diplomatique américaine, comme Trump là est totalement irresponsable, en ne donnant pas de direction précise aux acteurs de la région.
Et Jean-Dominique Merchel, opinion.
Oui, c'est quand même une nouveauté, cette déclaration, parce que la position traditionnelle, et d'ailleurs elle a été rappelée par les diplomates américains depuis la sortie de Trump, qui manifestement est en roue libre sur des dossiers qui... La position traditionnelle, c'était deux États. les États-Unis se sont énormément engagés dans ces processus pour faire émerger cette solution des deux États. Là, tout d'un coup, le président, donc le patron, dit bah non, finalement, on verra bien. Faites ce qui vous semble bon. Faites ce qui vous semble bon, ça veut dire que les États-Unis ne feront pas de pression sur des partis, et notamment sur Israël.
Bien
voilà,
entendu.
C'est pour dire les choses. Et donc, dès le début de son mandat, il dit à Netanyahou, qui n'attendait sans doute pas autant, d'ailleurs. Lui, il était aux anges.
Ah, il a profité, hein.
Aux anges dans une réunion comme ça. Il lui dit, bon, écoutez, voilà, Bibi. Il lui appelle Bibi.
Mais Bibi, on l'entend, bien sûr.
Bibi, nous, on est potes. Tu t'arranges avec les Palestiniens. Un État, deux États, bon, c'est ton affaire. Mais nous, on fera pas de pression. Il ne peut pas y avoir de solution au Moyen-Orient sans pression internationale. C'est clair. Tout le monde le sait depuis toujours. Donc, en gros, on dit, bon, ben voilà, pendant les 4 ans qui viennent, tant que Trump sera là,
chacun se débrouille.
Bon. Faites ce que vous voulez.
En tout cas.
Et donc, le plus fort gagne.
Et le plus fort, c'est Israël, bien sûr. Donald Trump, qui a fort affaire aussi avec ses voisins, alors mexicains notamment, manifestation dimanche dernier contre les attaques entre guillemets venues du Nord, hein, les expulsions, les décrets anti-immigration, le Made in America et la politique de relocalisation des usines. Tiens, ces manifestants.
Trump a fait s'unir le peuple mexicain, peu importe à quel parti ou à quelle religion ils appartiennent, et ce, malgré la diversité de notre peuple. On devait s'unir pour le bien de tous.
Voilà, manifestation donc au Mexique, manifestation aussi contre le manque de fermeté du président mexicain Enrique Peña Nieto. Il y a un sentiment nationaliste qui naît en ce moment au Mexique. Allez, on a quelques secondes avant de partir en Corée du Nord.
Quel voyage. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Canada vient de signer un accord avec l'Europe, le CETA, pour se désaméricaniser du Nord, il a essayé de trouver une marge de manœuvre économique indépendante des États-Unis, et que le Mexique, là, à force de taper dessus, je pense que le Mexique a toujours eu une tendance à se rapprocher sur l'année du Nord. Je ne sais pas s'il va y avoir une politique nationaliste, je ne sais pas, en tout cas, plus Amérique centrale, je pense que les deux bouts de la chaîne américaine essaient de s'autonomiser.
Ah ouais, ce qui ne changera pas, c'est la mexicanisation, enfin la latinisation des États-Unis.
Oui.
Ça, c'est un phénomène historique. C'est un phénomène qui se déroule, voilà, sur la longue durée. Les États-Unis se transforment, les États-Unis s'hispanisent, tout le sud-ouest des États-Unis est en train de se ré-hispaniser, au fond. Et donc ça ne changera pas. Et donc, il vaudrait mieux qu'ils arrivent à se parler entre ces deux pays. Trump dit, je vais mettre le mur de Berlin entre nous. Bon, voilà.
En tout cas, ils se sont parlé un peu, Trump et Trudeau, le premier ministre visitait, c'était un premier ministre canadien, celui qui avait tendu la main aux exclus des décrets anti-musulmans de Trump. Divergence, pas de complicité, un ton apaisé, allez un mot, et puis on s'intéresse à la Corée du Nord.
Quand vous êtes le président du Mexique ou le premier ministre du Canada, vous êtes quand même des petits par rapport à l'énorme américain qui est là, et vous devez faire avec. C'est un voisin, il y avait cette vieille phrase, cette vieille phrase mexicaine qui disait, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis. Donc voilà, on est toujours au fond de cette logique. Il y a le géant américain, il faut faire avec.
Bon, Jean-Dominique Merchet, qu'on va retrouver dans un instant dans 7 jours dans le monde. Avec Jean-Luc Sauron à suivre, la Corée du Nord qui teste la Maison-Blanche en tirant un missile. Tiens, est-ce que c'est aussi la Corée du Nord qui est à l'origine de la mort du demi-frère de Kim Jong-un ? Rendez-vous dans un instant sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
L'info internationale commentée ce week-end sur BFM Business dans 7 jours dans le monde par Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine, auteur de Faites l'Europe, pas la guerre. Jean-Dominique Merchet qui anime son blog Secret Défense, c'est le spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion. Tiens justement, dimanche dernier, alors même que le premier ministre japonais Shinzo Abe vient passer un week-end aux États-Unis, alors week-end de travail puis week-end de loisirs, les jouer au golf avec Donald Trump, durant lequel eh bien les Américains ont tenté de le rassurer. Pyongyang tirait un missile de moyenne portée qui s'est abîmé quelques centaines de kilomètres plus loin en mer du Japon. L'inébranlable présentatrice de la télé nord-coréenne, hein, qui est là depuis une trentaine d'années, donc pour annoncer, eh bien, les bonnes nouvelles du régime. Oui, bonnes nouvelles, évidemment, vu de Pyongyang. Hein. Jean-Dominique Merchet, c'est un missile d'une portée allant jusqu'à
4000 kilomètres qui a été tiré. C'est pas le fameux missile intercontinental pouvant atteindre les États-Unis dont Kim Jong-un, le 1er janvier, avait annoncé qu'il allait l'utiliser, qu'il allait le tirer. Hein.
Oui, oui. Mais en même temps, les Nord-Coréens progressent.
Oui, voilà. C'est évident.
Les Nord-Coréens progressent. Ils progressent sur les deux domaines importants qu'il faut à un moment arriver à faire se rejoindre. Ils progressent sur les armes nucléaires qu'il faut miniaturiser
pour les emmener sur un missile, voilà.
Pour qu'elles résistent aux vibrations, aux chocs d'un retour dans l'atmosphère, et en même temps d'un missile qui soit capable d'aller loin et d'une manière relativement précise. Donc on voit bien qu'ils progressent depuis des années et ils vont finir par y arriver. Voilà.
Et Kim Jong-un, comme les Russes du Donbass, comme les Iraniens, ils testent la Maison-Blanche ?
Oui, en partie, mais en même temps... Ils font ça depuis des années. Ils testent en permanence. Ils sont vraiment. Je suis pas sûr qu'ils aient le nez rivé sur le calendrier politique américain à ce point-là. Ils sont sur leur lancée. Ils progressent. En fait, ils s'installent comme ils achètent le régime. Le régime communiste nord-coréen achète son assurance vie avec ça. Il sait que tant qu'il fera ça, il n'a rien à craindre. On ne l'attaquera pas parce qu'il a une arme nucléaire. Voilà. L'Ukraine avait une arme nucléaire, si Saddam Hussein avait une arme nucléaire, il n'y aurait jamais eu ce qui s'est passé. Donc, il a sanctuarisé son pays et il y maintient sa dictature.
Voilà. Quelle réplique américaine, parce que lors de sa conférence de presse, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, Donald Trump, c'était donc jeudi soir, ne parlait-il pas d'holocauste nucléaire ?
Oui, ce sont des mots, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils vont faire. On condamne, on dit c'est pas bien, c'est pas beau. Le seul pays qui a un tout petit poids qui pourrait tout, c'est la Chine. Ouais. Et elle est très embêtée par cette histoire, mais bon, elle essaie de faire. La Corée du Sud. En plus, faut comprendre qu'on est dans une région où les pays ne s'aiment pas entre eux. Il n'y a pas de système d'alliance comme en Europe avec l'OTAN, l'Union européenne. Vous avez la Corée, les deux Corées. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez le Japon, vous avez les États-Unis. Bref,
tous ces pays qui ont des reproches à faire à la Chine, comme
ensemble.
Le Vietnam, les Philippines.
Il n'y a pas de système de sécurité collective. Ouais. Donc, bon voilà, il y a ce perturbateur nord-coréen qu'elle a au milieu, il embête tout le monde, mais à vrai dire, on ne peut rien faire contre lui.
Et Jean-Luc Soron, il a choisi son moment quand même, Shinzo Abe aux États-Unis, la crise politique qui se poursuit en Corée du Sud, sur fond de scandales de corruption, on a vu encore comment le patron de Samsung a été arrêté, donc vendredi, le premier mois de Donald Trump, il joue un peu du calendrier quand même.
Non, je pense que les Nord-Coréens ont une très bonne connaissance du calendrier politique international, qui a non seulement le nucléaire, mais également la cyberguerre, où on sait qu'ils ont une division entière sur la cyberguerre, et ils sont très pointus. Je crois qu'il faut les prendre tous, sauf pour des idiots. C'est des géopoliticiens quand même. Hein. Ils n'auraient pas survécu depuis ça. Mais je crois que vraiment, tant sur la Russie, tant sur l'Asie, qui est quand même... c'est à mettre en plan avec le retrait par Trump du traité transpacifique, du traité de commerce avec l'ensemble des pays, qui est retombé. Immédiatement, l'Australie s'est rapprochée de la Chine. On ne peut pas dire que l'axe sino-australien est habituel. Et moi, je pense que tant pour l'Europe centrale que pour l'Asie, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un arbitre local pour se substituer aux gendarmes américains ? En Europe orientale, la Russie, avec le Proche-Orient, et en Asie, la Chine, parce que même si personne ne s'aime franchement, on verra peut-être qu'en Europe c'est aussi le cas, il y a besoin d'un régulateur régional pour empêcher justement les escalades et les glissements.
Jean-Dominique Mercher.
Oui, mais... Lui qui a parfaitement raison, mais on n'a pas ce régulateur. Il n'y a pas d'autorité. Personne ne domine la situation. Donc on est vraiment dans le concert des nations à l'ancienne, à la manière du 19e siècle dans cette région du monde. Il n'y a pas de structure collective, de garantie collective de sécurité. Donc on est dans un rapport de force. Avec, je le répète, des gens qui ne s'aiment pas entre eux, les Sud-Coréens n'aiment pas les Japonais, il y a des rivalités historiques extrêmement importantes.
De la Seconde Guerre notamment.
Et donc, c'est vrai que les Américains pouvaient avoir un rôle pacificateur, mais de moins en moins, parce que l'émergence de la Chine, par exemple, fait que la Chine, chez elle,
je parle de pacificateurs, de régulateurs régionaux. Il y a que la Chine qui substitue aux États-Unis dans l'Asie, et la Russie qui substitue aux États-Unis sur l'Europe.
Mais les États asiatiques n'ont pas envie de vivre dans un empire chinois.
Entre la guerre et un régulateur régional, je pense qu'ils pencheront pour le régulateur régional.
La Corée du Nord, suite qui a tué le bâtard de Pyongyang. Voilà, le bâtard, c'est Kim Jong-nam, 45 ans, le demi-frère du leader suprême, hein, assassiné d'un coup de spray, voilà, empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpour, en Malaisie, apparemment par deux femmes. La Corée du Sud y voit la main du régime communiste. Oh, c'est une histoire de famille, d'histoire de rivalité. Jong-nam, c'était le fils de Kim Jong-il, né des amours avec une actrice au début des années 70. Hein. Il a été élevé par sa tante, l'épouse de l'oncle qui avait été éliminée par Kim Jong-un il y a 3 ans. Son nom, d'ailleurs, il avait été cité un moment pour succéder donc à son père, à Kim Jong-il. Dans l'opinion, vous demandiez à qui profite le crime, Jean-Dominique Merchet.
Oui, alors on n'a pas la...
Ah bah non,
on n'a pas la clé. C'est une histoire policière, c'est une histoire romanesque. Oh ouais. On est chez les Médicis, chez les Atrides. C'est la famille régnante qui s'entretue. Oui, manifestement, c'est le dictateur qui sort renforcé de cette affaire.
Il y avait des rivalités au point que Kim Jong-un aurait voulu tuer son demi-frère. Il faisait rien de mal apparemment, ce monsieur.
Il était critique sur le régime. Il a publié plusieurs ouvrages assez critiques sur le régime.
Mais ce n'est pas très transparent ce qui se passe dans
la même chose qu'il a. Je crois que c'est un homme en fait énergique, qui a un sens de la famille un peu particulier. L'oncle ayant été quand même assassiné, mis sur un fût d'un canon et on l'a tiré.
Non. Il a été fusillé. Il a eu beaucoup de rumeurs comme quoi il aurait été soit mangé par des chiens, c'était un autre qui aurait été mis sur le fût d'un canon.
Il y a un
autre général.
C'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être fusillé. C'est vrai que c'est vraiment plus humain. Je vois votre caractère assez pacifique se révéler là. Non, je pense que vraiment, c'est la vieille technique communiste. Hein. C'est Staline qui faisait assassiner ceux qui auraient pu un jour monter au poste. C'est l'appareil bulgare qui faisait assassiner les opposants en France.
Un coup de parapluie. Les Roumains aussi.
Je crois que c'est vraiment typiquement, mais aussi les dictatures. C'est ce que faisait les dictatures argentines ou chiliennes, de faire assassiner des... On sait bien, Pablo Neruda a été assassiné par ses secrets chiliens. Non, je crois que c'est les dictatures qui a un moyen assez énergique pour traiter le problème d'opposition future.
C'est ce qu'avait fait Napoléon avec le duc d'Enghien. C'est malheureusement pratiques vieilles. Vieille comme la politique dans des régimes qui sont pas démocratiques et où y a, les libertés sont pas assurées. C'est la famille Médicis à Florence. C'est ça. C'est une dictature absolue. Enfin voilà, ils font leur truc. Sauf que les Médicis ont laissé un héritage extrêmement brillant et là, ils nous laissent des armes nucléaires et un peuple affamé et voilà. Donc c'est... Mais bon.
Bon allez, pour retrouver un peu de sérénité, cette petite pause musicale. Atmana usturganat kakanna Seherdanlar sevip olup açanna Mukamedov, c'est le président du Turkménistan, pays d'Asie centrale de 5 millions d'habitants qui est assis sur un immense gisement de gaz naturel. Le président turkmène qu'on entendait donc gratter la guitare devant des ouvriers turkmènes, c'était pendant la campagne électorale. Bien sûr. Il a été réélu dimanche dernier à 98% des voix pour un troisième mandat face à 8 figurants. Jean-Dominique Merchet, Jean-Luc Sauron, ça fait rire, ça fait sourire, mais sauf que cet homme, c'est un tyran qui, comme son prédécesseur, à qui il soignait les dents, justement, parce qu'il est dentiste, celui qu'on vient d'entendre. L'ancien tyran, c'était Super Murat Niyazov, le Turkmen Bashi, le père des Turkmènes. Oui. Ils avaient imposé tous les deux un véritable culte de la personnalité à leur endroit, et on le voit dans les rues d'Ashkabad.
Là, on le voit. Ce qui est amusant, c'est qu'on a vu récemment, donc quelques instants, le comité central du Parti communiste nord-coréen, tout le monde applaudit à tout rompre, à s'en faire exploser les mains. Et là, les ouvriers qui écoutent le président, visiblement, tape aussi dans les mains, donc je vois quand même qu'ils sont tous très contents, faut pas non plus dramatiser ça, mais...
C'était d'ailleurs la teneur du communiqué du président Berdi Mukamedov, réélu à 98%, en disant, voilà, mon peuple salue les efforts que j'ai entrepris depuis que je suis arrivé, etc.
Je pense que s'il y a un régime qui n'est pas mis en danger par l'Occident, c'est bien le sien.
Ah bien sûr.
Contre les affaires qui sont signées entre les grands états dans la France, d'ailleurs, et ce charmant dirigeant, je pense qu'on n'est pas...
Dans les rues d'Ashkabad, on voit des statues en or, des portraits, donc devant d'immenses palais en marbre blanc, construit par Vinci, par Bouygues. C'est considéré un peu comme la Corée du Nord d'Asie centrale, ce pays, Jean-Dominique Merchet.
Votre image est assez bonne. On touche là les limites de la transition post-soviétique. Le Turkménistan, c'était une des 15 républiques soviétiques, une de ces républiques d'Asie centrale. On voit quand même l'énorme difficulté de ces 15 républiques ex-soviétiques à être devenues des démocraties. Alors, il y a les trois républiques baltes qui sont aujourd'hui dans l'OTAN, dans l'Union européenne, qui sont des pays...
Lettonie, voilà, Estonie, Lituanie. Alors,
même s'ils continuent d'avoir des problèmes de nationalisme un peu exacerbés avec leur propre minorité russe, qui pourrait un jour leur... Ils ne leur donnent pas la nationalité. Bref, oui, enfin, on voit que... Mais bon, mais on voit la Russie... On voit bien que c'est pas facile, hein, la transition démocratique et l'installation de Poutine, on n'a pas l'impression que c'est devenu un modèle du genre. L'Ukraine, on voit l'incapacité de cet État à exister, tout simplement, et à se transformer. Les États d'Asie centrale,
on parle du Turkménistan.
Le Turkménistan est le plus caricatural. Oui, c'est absolument... c'est la Corée du Nord. Mais ailleurs, l'Ouzbékistan...
Pareil. Le Kazakhstan,
l'Afghanistan. Ce sont pas des modèles.
Ah ben non.
Vous prenez dans le Caucase. Alors Caucase c'est un peu différent.
Bah, c'est pareil, l'Azerbaïdjan.
Ça marche pas très bien. Mais... L'Azerbaïdjan. En plus, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se font la guerre.
Avec la famille Aliyev qui contrôle tout l'Azerbaïdjan.
Les deux pays font la guerre. La Géorgie qui a été en guerre. Bref, on voit que tout cet espace post-soviétique. Avec effectivement le système absolument caricatural du Turkménistan,
avec une population pauvre, sans liberté, sans expression,
la Biélorussie, qui est au cœur de
l'Europe,
en Europe, et qui a un régime un tout petit peu moins ridicule, tyrannique,
ils ont moins fantasque,
moins fantasque, mais tout aussi tyrannique. On voit bien qu'ils ont raté leur transition démocratique. Voilà.
Jean-Luc Ferrand. Ils n'ont pas raté, ils n'ont pas voulu la faire.
Oui,
parce que les pays baltes, c'était les démocraties avant d'être envahies par l'Union soviétique en 1940, quand même. C'était quand même quelque chose d'important. Non, moi, je crois que c'est un peu ce que je disais, parce que vous indiquez les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'arbitre, c'est la Russie, qui fournit les armes à l'un.
La Turquie aussi.
Non, mais la Turquie, mais là, il y a le problème, c'est que ce sont des zones turcophones aussi. Hein.
Bien sûr, et donc, comme le Turkménistan. Hein.
Où il y a une adhérence entre les ambitions impériales, si je dirais, de la Russie et de la Turquie. Ça explique aussi certaines conditions de leur rapprochement sur la Syrie.
Et de l'Iran aussi.
En fait, on est dans un monde assez explosif. Moi, je suis moins optimiste que Jean-Dominique.
Vous avez parlé, Jean-Dominique Merchet, de cette transition démocratique ratée, de ces conflits. Économiquement aussi, c'est pas terrible. Hein. Quatrième réserve mondiale de gaz. Avec un pays comme le Turkménistan, il n'arrive pas à diversifier son économie. Alors, ils ont les Chinois comme principal client, donc les Chinois qui dictent les conditions, qui quelque part fixent les prix, dans un contexte où le prix des matières premières s'écroule. Résultat,
vous pouvez vous dire que le Turkménistan n'arrive pas à diversifier son économie. On peut le comprendre. Le Turkménistan, c'est un tout petit pays qui est assez peu peuplé, qui est enclavé, au milieu de l'Asie centrale. Bon, ok, ils ont du pétrole et du gaz et ils tirent dessus comme font beaucoup de puissants. Le problème de la reconversion économique, c'est la Russie. C'est la Russie qui est quand même un pays avec des universités, avec une vieille tradition scientifique, intellectuelle, et ils n'ont pas eux réussi leur reconversion économique. Qu'est-ce qu'ils vendent les Russes? Du pétrole, des matières premières, du blé et des armements. C'est tout.
C'est tout. Jean-Dominique Merchet, qu'on va retrouver dans un instant avec Jean-Luc Seron à suivre. STX Opel, les Européens inquiets de voir partir leurs fleurons chez leurs voisins proches. Hein. Et puis aux Pays-Bas, les grandes multinationales du pays qui s'engagent contre le populisme à un mois d'un scrutin essentiel. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Jean-Luc Seron et Jean-Dominique Merchet pendant quelques minutes sur BFM Business pour revenir sur l'actu internationale de la semaine. C'est 7 jours dans le monde. Oui, dans l'actualité entreprise, on en a beaucoup parlé sur BFM Business. Cette semaine, il y a General Motors en négociation avec PSA pour le rachat de ses activités européennes, à savoir donc Opel, installé en Allemagne, en Rhénanie-du-Nord-Palatinat, à Kaiserslautern. Une annonce qui a provoqué des remous outre-Rhin. Alors aussi bien sur la forme, pourquoi les syndicats, pourquoi les autorités locales n'ont-elles pas été consultées, associées au processus? Et puis sur le fond, également sur la pérennité des sites de production, crainte sur l'emploi. Et puis dans le dossier de la reprise des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, confié par la justice coréenne à l'italien Fincantieri, le ton est monté entre Rome et Paris. Rome qui voudra avoir la majorité des parts Et pareil qui lui dit non. Voilà, non, on va rester sous les 50%. STX, dernier épisode, donc, d'un feuilleton qui s'ajoute aux frictions du passé sur des fleurons comme Parmalat, Edison, Bulgarie, Mediaset, convoitées ou acquises par les Français. Jean-Luc Sauron, qu'est-ce que révèlent ces deux affaires d'entreprise, les relations économiques entre pays amis, pays voisins?
Ben c'est, je crois, l'absence totale de perspective commune des Européens, quoi. Véritablement, lorsque vous voyez, suite à l'incident franco-italien, cette tension franco-allemande, c'est assez dramatique parce que il y a un point commun. Il y a eu une déclaration cette semaine franco-italienne, franco-italo-allemande, demandant à l'Europe de donner les moyens de se protéger contre les investissements massifs chinois de manière à sauver, je dirais, des fleurons technologiques et stratégiques. Mais l'alternative à ça, c'est quoi? C'est que si on se protège de l'extérieur, il y a une véritable politique interne industrielle et que nous reconnaissions mutuellement que lorsque le propriétaire est un Européen, surtout un Européen proche comme les Allemands ou les Italiens, je ne dirais pas que c'est comme à la maison, le terme est un peu excessif, mais que nous avons quand même, si je prends ces trois pays-là que vous citez, nous avons un modèle social qui est quand même extrêmement proche, une histoire extrêmement proche, culturelle et humaine, des échanges, enfin voilà, ces trois... Et là, c'est un peu le sentiment que, quand même, nous arrivons à la fin d'un cycle. Je crois qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on n'a pas encore les contours du tour avant. Enfin, certains en ont. C'est le Frexit, c'est la déstabilisation de l'Union européenne. Est-ce que véritablement il n'y a pas d'autres alternatives? Ben, je crois que c'est au gouvernement. Parce que moi, ce qui me fait, et je terminerai là, mais ce qui me fascine, c'est l'incapacité de ces gouvernements, au-delà des industriels, à poser une solution politique, d'accord, en disant, ben, retrouvons-nous et essayons de trouver quelque chose de plus vraisemblable.
Voilà, faites l'Europe, pas la guerre, nous dit tout le temps Jean-Luc Sauron. Jean-Denis Marchais, chacun tente d'exister, on n'accepte plus que des entreprises passent sous pavillon étranger, même si c'est un pavillon français, même si c'est un pavillon allemand, italien, enfin voilà.
Oui, on est dans une situation compliquée, parce que d'un côté, il y a une très forte intégration des... ce qu'on appelle les chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'on construit... vous prenez un Airbus, on dit Airbus, c'est formidable, c'est européen. Sauf que 40% des pièces d'un Airbus sont américaines.
Bien sûr. Et il en va de même pour les Boeing.
Donc il y a une intégration des systèmes de production au niveau international qui est considérable, sur laquelle je ne pense pas qu'on ait intérêt à revenir. Par ailleurs, il est important que... d'un point de vue géographique, dans un certain nombre de lieux, de nations, de régions, on maintient à la fois des emplois, et si possible des emplois qualifiés, et par ailleurs que les États qui sont des États souverains, comme la France, l'Allemagne, conservent des capacités dans les domaines stratégiques. Et par exemple, si on veut demain pouvoir être une puissance spatiale, il faut qu'on ait des lanceurs, des satellites. Et si on veut être une puissance militaire, il faut qu'on sache construire des sous-marins, donc on ait une industrie navale. Bref, donc c'est important d'arriver à équilibrer ça. Et c'est certainement pas en disant protectionnisme,
c'est horrible, Peugeot va passer sous pavillon allemand,
etc. Il faut être stratège.
Pour terminer, il nous reste 3 minutes, on reste en Europe avec ces scrutins décisifs cette année, bien sûr, France, Allemagne, et puis les Pays-Bas, mi-mars, dans un mois, avec un grand favori des législatives, c'est le leader d'extrême droite, anti-système, anti-immigré, anti-islam, qui est Geert Wilders. Et face à cette montée, justement, les patrons des grandes entreprises du pays, comme Shell, comme Philips, comme Unilever, ils ont pris la plume, ils lancent un pacte contre le populisme. Que disent-ils dans la presse néerlandaise? Le populisme est un symptôme de l'absence de progrès. Pour aller à l'encontre du populisme, nous avons besoin d'un nouveau modèle d'affaires. Les Pays-Bas peuvent, grâce à leurs compétences, répondre à 5 tendances. Le problème alimentaire, la gestion de l'eau potable, le vieillissement de la population, l'urbanisation, le passage à l'énergie durable. Initiative originale, mais qui peut porter ses fruits ou pas, Jean-Luc?
Moi, je crois que c'est une initiative qui, non seulement ne portera pas ses fruits, mais ne va faire qu'alimenter la machine aux Pays-Bas et gonfler la machine chez nous. Je m'explique. Ah ouais. Le Brexit n'a pas donné de suite économique dramatique, peut-être dans 2-3 ans, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des partisans tout à fait fondés à dire, ben, regardez, faisons un Frexit, il n'y a pas eu de danger économique. Et bien pour les Pays-Bas, l'enjeu, en fait, le patronat suit le mouvement de l'ensemble des partis politiques néerlandais. Or,
le Parti des Libertés de Geert Wilders, parti populiste, en disant nous ne siégerons pas avec eux. Donc on donne à Wilders aujourd'hui 40% de la masse électorale, mais quel est l'impact qu'il va avoir, je ne sais pas si c'est 40%, enfin, c'est en tout cas les sondages, oui. Mais quel est l'impact sur la campagne française si quelqu'un qui arrive en tête des élections aux Pays-Bas se voit interdire d'accéder au pouvoir par la coalition de gens qui n'ont comme seul point d'entente que d'empêcher celui-ci d'arriver au pouvoir. Vous allez voir, il va y avoir un débat français sur ce problème. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous ne nous retrouvons pas alors que nos situations politiques nationales sont très très proches.
Contre-productif, donc, nous dit Jean-Luc Seron, Jean-Dominique Mercher, on va terminer.
L'analyse de Jean-Luc est bonne. Ce que disent les grands patrons néerlandais, hollandais, frappent au coin du bon sens. C'est vrai qu'il y a un problème de populisme en Europe et qu'il faut y répondre. Le problème, c'est que c'est eux qui le disent et qu'ils sont rejetés par une partie de la population. Et donc, ils ne servent certainement pas la cause qu'ils défendent. Paradoxalement. Regardez, les grands patrons anglais ont tous dit le Brexit, il ne faut surtout pas, la City était vent debout et le Brexit est passé. Donc, si vous voulez, il y a un problème de légitimité qui aujourd'hui, on voit bien
qui doit porter la parole contre les populistes.
Les grandes entreprises sont contestées aujourd'hui. Alors on peut le regretter, mais c'est un fait. Et donc quand les grands patrons disent surtout ne votez pas pour ce parti, ils encouragent
à voter
une partie de l'électorat à voter pour.
Merci à tous les deux. Merci donc Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion et qui anime son blog Secret Défense. Merci également à Jean-Luc Seron, professeur de droit européen à Paris Dauphine, qui vous propose Faites l'Europe, pas la guerre. C'est fini pour 7 jours dans le monde. Rendez-vous vite le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.